Donc, pour commencer, je vais peut-être pour présenter ton intervention, José.
Ouais.
Je vais un peu situer pourquoi on a fait appel à toi. Bon, c'est vrai que le projet de l'Ethnocafé, cette idée de la poésie, c'est né de. J'ai eu cette idée dans mon travail de recherche, donc parce que moi je suis médecin généraliste et puis j'ai fait des études d'anthropologie aussi. Et j'ai passé une thèse en anthropologie, donc il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle « À la recherche d'épistémée » où c'était vraiment, pour le coup, une recherche d'une philosophie qui allait me convenir pour vivre, on va dire. C'est une sorte de recherche désespérée, on pourrait dire. Finalement, comment penser le soin, peut-être d'une autre façon que ce qui m'a été présenté jusqu'à maintenant. Et du coup, ce travail de thèse était un peu une sorte de nage en solitaire, de transat en solitaire à plein de niveaux, aussi avec une difficulté avec le U, comme tu disais, Daniel. Et dans cette transat en solitaire, j'ai croisé des travaux, notamment d'un anthropologue qui s'appelle Tim Ingold, qui a travaillé sur les Indiens, alors un peu plus au nord, les Indiens d'Amérique du Nord. Et il développait ce qu'il appelait la poétique de l'habité. Alors la poétique de l'habité, il y a tout un mouvement en anthropologie qui travaille cette question finalement sur on pourrait finalement habiter de façon poétique sa vie et habiter de façon poétique le monde. Et pour Tim Ingold, ce qui habitait poétiquement, enfin il basait son travail sur la description de la façon de vivre de ces Indiens d'Amérique qu'il avait étudié. Alors j'ai pas beaucoup, ça date un petit peu, je pourrais pas parler plus en détail de ce qu'il avait repéré chez ces Indiens, mais en tout cas, j'en garde le souvenir d'une façon très connectée avec la nature, d'une façon, le fait de se lever, de sortir de son tipi et de saluer le soleil, d'être vraiment dans une attention à ce qui environne, voilà. Et du coup, cette idée j'étais assez saisi par cette idée de vivre poétiquement, d'autant plus que moi, c'était la poésie, je connaissais pas la poésie, je lisais pas de poésie, c'était un milieu complètement, complètement inconnu. Mais dans ce travail de recherche, il y avait l'idée, enfin, je trouve que c'est ça, faire de la recherche, qu'il fallait explorer ouvrir le champ sur la réalité du soin, c'est aller dans une voie inconnue et je crois que mon idée profondément à l'époque, même si je n'avais pas bien conscientisé, c'était de trouver une voie inconnue. Et du coup, la voie inconnue, c'était cette voie de la poésie et les choses se sont construites comme ça. Et du coup, effectivement, si on peut habiter poétiquement, la question c'est est-ce qu'on ne peut pas soigner poétiquement et toute la question de la poétique de soin a été lancée par ce travail de cet anthropologue Tim Ingold. Et du coup, ça fait longtemps que j'avais envie de ramener un peu ça sur ce fondement de l'Ethnocafé et de faire une soirée sur les Indiens. Alors, tes Indiens à toi, si on peut dire comme ça, de façon un peu vilaine, sont un peu plus au sud.
Ils ne sont pas moi.
Comment ?
Ils ne sont pas moi.
Oui, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une façon vilaine de parler.
Possession.
Mais voilà, les Indiens Yaquis du Mexique, donc tu as fait un travail de recherche sur leur façon notamment d'être en rapport avec le monde, ce que tu appelles la cosmovision de ce peuple, la façon dont ils pensent et ils organisent leur rapport à l'espace-temps et esprit. Voilà, et donc on te laisse la parole pour nous faire une présentation de ton travail.
Très bien, merci Jean, merci à tout le monde. Je vais essayer de partager. Alors, il y a déjà des mots qui sont apparus dans les présentations. Il y a eu le mot de temps, il y a eu le mot espace, et c'est intéressant de voir qu'on va essayer de faire surgir l'esprit dans cet espace-temps. Et c'est un peu l'idée. Je vais essayer aussi de vous confronter à quelque chose que j'appelle l'altérité, mais c'est vraiment, comment dire, au lieu de vous faire une présentation avec une explication très théorique, très basique, je vais vraiment vous confronter à la vision du monde. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà familiarisés, il n'y aura pas d'altérité, de véritable altérité. Et je vais essayer de provoquer une sorte d'abréaction, je ne sais pas comment appeler ça, une sorte de cassure sur votre perception du monde par rapport à la perception du monde des Yaquis. Et j'espère que ça sera une rencontre et un voyage intéressant pour vous. Et bien sûr, voyager sur cet espace du temps et de l'esprit et qui nous permet de nous interroger de la façon dont nous vivons les espaces, dans quelle temporalité et avec quel esprit dans l'Occident, dans nos sociétés. Alors je vais quand même faire une petite présentation un peu historique, parce que sinon ça va être difficile de situer les acquis. J'en ai profité pour imprimer, c'est pas très écolo, mais j'ai quand même imprimé quelques cartes et quelques documents pour que vous puissiez situer, vous les ferez passer, pour que vous puissiez situer les Yaquis. Alors je vais d'abord commencer par vous faire quand même une situation historique et rappeler qu'aujourd'hui, les Yaquis, ils vivent d'une façon... Les Yaquis, la plupart des peuples amérindiens sont rattrapés par la globalisation, ils ont tous le téléphone portable, ils regardent la télé... Ils sont confrontés à la réalité quotidienne de trouver de l'emploi, la précarité, des conditions de vie très difficiles. Mais pour les Amérindiens, souvent, la vie occidentale a vraiment été une confrontation qui fait que nous savons aujourd'hui que dans la plupart des réserves nord-américaines, le taux d'alcoolémie est très élevé, la violence est très importante. Donc il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. Ce que je vais vous présenter... C'est la vision d'un monde. Ce monde, il existe encore. Les Yaquis tentent de le préserver. Des autres communautés amérindiennes tentent de le préserver. Mais la pression exercée par les Occidentaux, la façon dont nous vivons, nous, le monde, fait que ça provoque une rupture et une violence pour eux, pour être en capacité. Et on le voit très bien, si des problématiques de drogue, d'alcool sont très prégnantes dans ces sociétés, c'est parce que même 500 ans après la conquête, pour les Indiens, il est très difficile de percevoir le monde de la façon dont nous le percevons et de se projeter dans le monde dans lequel nous vivons avec une certaine facilité. Donc pour eux, la violence, c'est vraiment... la violence de ce monde, de ce choc de la colonisation, est vraiment quelque chose de difficile à vivre. Et on le voit aujourd'hui, la jeunesse amérindienne est une jeunesse qui est confrontée aux problématiques d'alcool, de drogue. Le Mexique, je ne sais pas si vous le savez, c'est aussi une zone où le narcotrafic est très important. J'ai été confronté à cette problématique au Sonora et au Chihuahua. Donc pour situer le Sonora, c'est l'état nord-ouest Mexique septentrional, juste à côté du Chihuahua, et en dessous c'est le Sinaloa. Le Sinaloa aujourd'hui est un état qui est gouverné par les narcotrafiquants, donc il faut le savoir. Le Sonora est une plaque tournante du trafic de drogue. Il faut le savoir aussi. Et les Indiens sont souvent pris dans cette dynamique parce que précarité, manque d'emploi, ils font partie de ceux qui cultivent. Chez les Pima, il y a beaucoup d'Indiens qui cultivent je l'appelle la marijuana. Je trouve que c'est un joli nom. Parce que je fais la différence entre la plante et l'usage qu'on peut en faire ensuite. Bon, ça, on pourra l'aborder aussi. Donc voilà, je voulais poser ce contexte pour que vous compreniez bien que je vais ouvrir sur une vision du monde, mais je passe par une dimension historique. Parce qu'il faut comprendre que les Indiens, les Amérindiens, vivent le monde à partir du mythe. Et ici, je fais vraiment la distinction entre le mythe et l'historique. L'historique nous inscrit dans une linéarité, tandis que le mythe, c'est ce qu'appelle Michel Bocora, c'est le mythe, la pensée mythique précède la pensée humaine. C'est le mythe qui crée le monde et recrée le monde. Chez les Indiens, ils sont vraiment focalisés sur cette perception qui est que le mythe vient s'opposer à l'historique. Et quand Jean nous propose d'enregistrer, par exemple, dans la parole mythique, on n'enregistre pas. Parce que le but du jeu, c'est de ne pas laisser de traces. On ne laisse pas de traces dans le monde. J'ai une petite photo, je pensais la garder un peu plus tard, mais je trouve que c'est bien de commencer pour vraiment vous compreniez la distinction et la vision du monde des Indiens sur la façon de laisser une trace que propose le mythe et la trace que propose le lien historique, la linéarité historique dans laquelle on s'inscrit. Nous, les humains, vous voyez cette photo, c'est une photo un peu écolo. Là, ici, vous avez des petits pas, bon, elle n'est pas en couleur, je suis désolé, vous avez des traces d'oiseaux sur le sable, vous avez des traces de tortues sur le sable, et ici, vous avez du plastique et tous nos déchets sur le sable. Donc, la trace des animaux, le mythe laisse une trace. Mais l'importance de cette trace, c'est qu'elle se crée et elle se recrée. Et le mouvement du monde fait que la trace, à un moment, elle va disparaître, mais elle reste. Et c'est ce que j'appelle, dans l'espace-temps, l'esprit. L'important ici, aujourd'hui, au-delà d'enregistrer, ce qui est important, c'est l'esprit qui va rester. Et même dans l'absence de notre trace, l'esprit doit être en permanence. Et, Le Legno-Café, ce que je trouve intéressant, je fais une petite parenthèse, vous verrez, je fais beaucoup de digressions, mais bon, c'est pas grave, on va revenir sur le propos après. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand on rentre dans cet espace, on sent que la temporalité est déjà différente. Je ne sais pas si vous le remarquez, la temporalité qui existe dans la rue, la temporalité qui existe ici, je ne sais pas si vous avez fait attention, on entend moins le bruit des voitures tout d'un coup. Pourquoi ? Pourtant, il y a des voitures qui passent, hein. Mais on entend tout d'un coup, il y a une concentration, parce qu'on occupe un espace et on lui imprime une autre temporalité que celle qui est vécue à l'extérieur. Et mon propos, quelque part, il y a un bus qui vient de passer, et mon propos, quelque part, c'est de laisser un esprit ici. J'aurais bien voulu que la soirée ne soit pas enregistrée, mais après, je comprends les contraintes de notre société et l'importance de partager. Mais chez les Yakis, on n'enregistre pas, on n'écrit pas. C'est l'acte de parole. Normalement, si j'étais Yaki, je devrais faire un acte de parole qui débute par une prière, qui vient ensuite apporter un partage et qui termine par une approbation générale. Je ne suis pas Yaki, donc je n'ai pas cette capacité de la tradition orale de pouvoir parler pendant une heure. Moi, je ne vais pas parler une heure, hein, je vais essayer de vous faire quand même un petit exposé pour qu'il puisse y avoir un échange. Mais je n'ai pas cette capacité de faire un acte de parole. Là, je vais lire des notes, je vais lire des mythes. Donc voilà, moi, je voulais insister sur ce point. C'est que vraiment, la façon, l'altérité qui va se présenter à vous, c'est exactement celle-ci où les Amérindiens ne cherchent pas à laisser une trace. Ils cherchent à vivre le mythe, c'est-à-dire créer et recréer. Et comme le dit Novalis sur la poésie c'est l'acte créateur absolu, quelque part. Donc c'est... attendez, je vais retrouver vraiment la citation, parce que sinon...
Si tu peux, juste parce que moi je ne suis pas tellement eue,
oui.
Dire qui sont ces gens que tu cites.
Ben, Novalis, c'est un auteur...
Un poète romantique allemand.
Okay. Romantique allemand, voilà. Mmh. Ouais.
Peut-être du 18e ou...
Je vais lui prendre mes lunettes. Tac. Voilà, Novalis. La poésie est le réel absolu. Plus c'est poétique, plus c'est vrai. Et le mythe, c'est le mythe. Le poète crée. Un poète, quand il fait un poème, c'est une création. Il ne vient pas s'inspirer de... C'est une création totale. C'est comme le mythe. Le mythe, c'est la création totale. D'accord ? Quelque part... Bon, c'est ma façon de voir les choses. Après, on pourra en discuter si vous êtes en accord ou en désaccord. Donc, c'est cette dimension. Donc, voilà. Pour vous présenter les Yakis, je vais vous présenter le premier contact entre les Yakis et les Espagnols. On est à peu près en 1500. Un groupe, Diego de Guzmán, le capitaine Diego de Guzmán, traverse le Rio Yaqui et reçoit et on voit arriver une délégation de Yaqui avec un chef qui porte un scapulaire, qui porte un bâton de pouvoir, qui est décoré avec des plumes, des miroirs et entouré par deux cerfs et des animaux. Et bien sûr, l'échange de dialogue est assez compliqué parce que Diego de Guzmán ne parle pas le Yaqui ne parle pas espagnol, et pour imager son acte de parole, il va dessiner un trait sur le sol et dire aux Espagnols de ne pas franchir ce trait. Donc là c'est quelque part quand dire c'est faire, et faire c'est redire. Donc là je fais allusion à Austin dans cette notion du performatif, c'est-à-dire l'acte de parole vient signifier quelque chose, et le Yaqui va le symboliser par un trait dessiné sur le sol. Les Espagnols ne vont pas prendre en considération cette mise en garde et vont rentrer en combat. Bon, ils seront défaits, hein, les Yaquis, ce sont vraiment des guerriers. Les Espagnols, ils étaient une petite troupe d'une trentaine. Donc voilà, il y a eu... Et le premier contact part de cette incompréhension de deux mondes qui n'arrivent pas à se comprendre, où le symbole dessiné ne vient pas éclairer ceux qui viennent à la rencontre. La rencontre est déjà dans la violence, on ne vient pas écouter l'autre. D'accord ? Donc voilà. Quelque part, quand je pose cette dimension, c'est aussi comprendre la relation que les Yaquis instaurent avec l'univers dans lequel ils vivent. Perdre le territoire, c'est perdre leur identité, c'est perdre ce qu'ils sont. C'est la dimension holistique, quelque part. C'est le rapport à la terre est fondamental. La terre Yaqui, le territoire Yaqui, est quelque part un corps qui donne existence et réalité aux Yaquis. Ici, c'est le rapport à la nature, ce que j'appelle le binôme nature sur nature. Là, je vais vous confronter à quelque chose que j'appelle le principe double. Pour comprendre les Amérindiens, il faut comprendre la dualité. Pas la dualité en opposition, le bien, le mal, le noir, le blanc. Non, le masculin ou le féminin. Non, comprendre la dualité dans le sens de quelque chose qui est un principe double. Dans la pensée amérindienne, c'est super compliqué. Et à chaque fois que j'essaye d'expliquer ces choses-là, c'est que quand je dis « il », je dis « elle ». Quand je dis elle, je dis il. Le principe d'Oul chez les Amérindiens, c'est que tout, d'une certaine façon, nature sur nature, ne peuvent pas être dissociés. Moi, je vais le dissocier un petit peu dans ma présentation, mais ils ne peuvent pas être dissociés. C'est-à-dire, quand je pense nature, je suis obligé de penser sur nature. Je ne peux pas dissocier ces deux éléments. Le rapport à la nature des Indiens dans ce monde où ils sont en harmonie avec le territoire, et l'importance du territoire, c'est de comprendre que le principe double est le principe créateur. Et le mythe est ce principe qui vient créer et recréer. Vous verrez, je vais répéter souvent créer et recréer, parce qu'il y a un principe double. Pour preuve, et là ça vient aussi mettre, on parlait tout à l'heure de la technique, ça vient aussi ici mettre en évidence ce qu'on pourrait appeler les deux positionnements que nous avons par notre tradition grecque, quelque part, qui est le positionnement prométhéen avec la technique, l'usage du feu, la connaissance du feu, la transmission de la technique, et la dimension orphique, avec Orphée qui a la dimension poétique. C'est-à-dire, aujourd'hui en Occident, nous avons privilégié cette dimension prométhéenne de la technique et de la technologie pour répondre au mystère de la nature, quelque part, c'est-à-dire comment faire en sorte de maîtriser la nature. Nous avons recherché dans notre démarche prométhéenne à maîtriser la nature, maîtriser le feu, maîtriser l'eau, maîtriser la nature dans ce qu'elle peut produire, à la dimension orphique, qui est celle, comme je disais tout à l'heure avec Novalis, c'est que la poésie, c'est vraiment ce qui crée, c'est l'absolu de la création. Et les Indiens sont donc plus dans cette démarche du rapport orphique et poétique avec le monde. La nature est vivante, la nature sur nature est vivante, donc je ne suis que l'émanation de cette propre nature et surnature. Donc voilà, pour preuve, les Yakis, qui entre eux ne se nomment pas Yakis mais Yoeme, Yoeme qui veut dire être humain, et vous verrez si vous faites des recherches, la plupart des dominations des peuples amérindiens veulent toutes dire être humain. Après, je reviendrai là-dessus aussi sur la notion d'être humain et d'être vivant, parce que être humain ne veut pas dire être humain comme nous l'entendons, en séparation avec l'être animal, l'être végétal ou l'être minéral. Mais j'anticipe pas, donc voilà. Et donc voilà, il y a vraiment ces dimensions. Et donc les Yakis, qui sont des UMM, existent parce que leurs ancêtres, les Surem, ont décidé de disparaître. Donc disparaître pour faire exister. C'est extraordinaire. Quand il y a eu ce premier contact, là je suis dans le mythe, hein, quand je vous parle de ce trait, je suis dans le mythe, c'est quelque chose qui est rapporté, c'est une tradition orale qui rapporte ce premier contact. Mais ce premier contact, c'est quelque part la mythologie créée et recréée par les Indiens pour expliquer l'état dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, les Surem, confrontés à l'arrivée des Espagnols, des conquistadors, ont décidé de partir. Ils ont décidé de disparaître. Et ils sont devenus des montagnes, ils sont devenus les feuves, ils sont devenus les fourmis. D'ailleurs, chez les Yakis, quand il y a des fourmis qui arrivent dans une habitation, on ne tue pas des fourmis, on déménage l'habitation, on bouge la maison. Donc voilà, parce que los mochomos, comme ils les appellent, ce sont les ancêtres des Yakis. Et il y a tout ce rapport à la nature sur nature. Donc, je me suis un petit peu perdu, non, ça va revenir. Donc voilà, et donc, ce qui est fondamental dans cette compréhension d'idiosyncrasie, on pourrait appeler ça comme ça, c'est que disparaître pour faire exister. Les Surem ont disparu pour faire exister les Yoem, parce que les Yoem sont ceux qui valident le mythe des Surem. Si les Yakis avaient, si tous les Yakis avaient disparu avec les Surem, cette réalité, ce mythe n'aurait pas pu exister. Et donc il faut qu'il reste une réalité, il faut qu'il reste des Yakis pour rendre véridique, légitime, leur vision du monde, leur cognition, leur création. Nous sommes les enfants des Surem, nous sommes le mythe réincarné et recréé. C'est bon, ça va, vous me dites, hein, je ne sais pas comment ça fonctionne, s'il y a des questions qui peuvent apparaître. Ou,
tout est possible, chacun est libre.
Tout est possible, je vais prendre mes petites lunettes, parce qu'avec l'âge, on perd aussi un peu la vue. Et donc, dans cette dimension, il faut vraiment comprendre, donc voilà, je vous ai fait passer une carte qui montre la dure réalité vécue par les Yakis. C'est le premier peuple à avoir été déporté. Sous le Porfiriato, nous sommes entre 1900 et 1910. Ils ont été déportés sur plus de 3000 km, en train, en bateau et à pied. On parle de la diaspora Yaki. C'est un peuple qui a connu... c'est le premier peuple à avoir été bombardé avec des gaz asphyxiants dans la Sierra dans laquelle ils se sont réfugiés. Donc c'est un peuple qui a vécu vraiment un processus politique d'extermination par Porfirio Diaz, qui était le président mexicain avant son exil en France, qui a été accueilli en France. Donc là, c'est juste avant la Révolution. Là, je vous parle de 1900 à 1910. Vous avez un très beau livre d'un journaliste américain qui s'appelle Turner, Kenneth Turner, qui a écrit, ça s'appelle « Mexique barbare » et qui rapporte cette histoire des Yaquis et la diaspora des Yaquis. Aujourd'hui, vous avez 5000 Yaquis qui vivent aux États-Unis, vers Tucson. Ils ont réussi à avoir une réserve, donc ils ont été reconnus comme tribu nord-américaine par le gouvernement américain. Et c'est vraiment un peuple, au moment de la plus grosse pression sur les Yaquis c'était une communauté à peu près à l'arrivée des Espagnols, où ils étaient entre 40 et 50 000. Fin 1910, il ne restait plus que 3000 familles, 3000, non, 300 familles dans le territoire des Yaquis. La plupart avaient été déportés, morts ou travaillés dans les mines. Donc voilà. Il faut savoir qu'ils ont été vendus comme esclaves, hein. On les vendait à 65 pesos. Donc voilà. Je suis obligé de parler de la dimension historique pour comprendre la souffrance de ce peuple et l'attachement de ce peuple. Quand la révolution a commencé, ils ont pu revenir. Il y a certaines femmes qui sont revenues à pied. Il y en a certains qui sont restés, qui se sont mariés avec des Mayas. Mais la plupart ont voulu revenir sur les territoires. Et à partir de 1937-39, avec la signature des accords avec le président Cárdenas, ce peuple a réussi, c'est l'un des sept peuples au Mexique, à obtenir l'autonomie territoriale et reconstituer leur système de gouvernement. Donc c'est l'un des rares peuples au Mexique qui possède l'autonomie territoriale de son territoire. Bon, je vais vous montrer ces d'autres photos. Le territoire originel des Yaquis, c'est la grosse bande comme ça, et ils ont récupéré un tiers du territoire. Donc voilà, je fais passer, après je vous expliquerai. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension, les Yaquis, même dans le domaine historique, donc il y avait le domaine du mythe, disparaître pour exister, mais même dans le domaine historique, ils étaient prêts à disparaître avant de perdre le territoire. La terre ancestrale sur laquelle, celle qui leur donne leur identité, vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir que, pour vous donner un exemple qui est vraiment terrifiant, lors d'un combat avec la police, pas la police, mais l'armée régulière mexicaine, dans la Sierra du Becatebe, les Yaquis, il faut savoir, encore une fois, la résistance, c'est pas simplement des hommes. Les femmes, ce qu'on appelle las soldaderas, il y avait des femmes qui combattaient avec les Yaquis, et des femmes qui défendaient aussi le territoire. Et quand les Yaquis partaient en résistance ou se réfugiaient dans la Sierra, ils étaient accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Lors d'un combat, c'est une date historique qui est terrible pour les Yaquis, ça s'est passé au Maso Kawa, qui est tête de cerf en plus, avec toute la dimension de la relation au cerf et à la terre. Les femmes, tous les hommes avaient été, le groupe d'hommes qui combattaient avait été tué, les femmes et les enfants se sont jetés dans le vide. Elles se sont supprimées pour défendre ce qu'elles étaient, avec leurs enfants. Préférer mourir que devenir l'autre, quelque part, devenir ce que l'autre vient apporter et qui ne représente pas notre vision du monde. Donc voilà, ça c'est je voulais vous parler de ces épisodes pour bien comprendre aujourd'hui que les Yaquis ont réussi à reconstituer leur corps de pouvoir, que je pourrais présenter sous trois formes. Vous avez le corps de pouvoir religieux, je dirais spirituel, avec les Maïshtom et les Kiyoshtem, qui sont des prêtres et des prêtresses, donc vous voyez, hommes et femmes. Petite précision, quand les jésuites sont arrivés à partir de 1600, bon les dates on s'en moque, hein. Quand les jésuites ont commencé à venir modifier la structure des villages yaquis, ils ont bien sûr fait les messes, fait les célébrations, les baptêmes, et ils ont créé un chant de cœur, et c'était que des enfants. Et en fait, quand les jésuites ont expulsé les Yaquis, à partir du moment qu'ils ont pu reprendre l'autorité sur leur territoire, ils ont réintégré les femmes. Et aujourd'hui, le cœur qui chante, ce sont des femmes. Ce ne sont pas des hommes. Pour vous comprenez vraiment la dimension, les Yaquis, il n'y a vraiment pas de séparation. Le rôle de la femme dans la société Yaquis est très important. Et on voit comment l'Église a voulu imposer ce que j'appelle des modèles sociaux qui ne correspondaient pas du tout à la vision des Yaquis. Donc voilà, donc ils ont restitué le corps de pouvoir religieux, le corps de pouvoir, ce que j'appelle politique et guerrier, avec les gouverneurs, ils ont des gouverneurs, et une garde traditionnelle, donc des hommes qui sont armés et qui défendent le territoire, et vous avez le corps magique avec le sorcier guérisseur. Là vous voyez aussi je parle de sorcier guérisseur, je ne dis pas le sorcier. Sorcier guérisseur parce que un guérisseur est forcément sorcier, parce qu'il détient, pour pouvoir soigner, il est dans cette dualité, il doit détenir le côté malveillant du sorcier et lui posséder le côté bienveillant du guérisseur. Et ce qui est intéressant chez les Yakir, nouvelle parenthèse, c'est que souvent, quand quelqu'un vient consulter pour un problème, on lui dit « on t'a jeté un sort » et il lui dit « bah voilà, c'est ce sorcier qui t'a jeté ce sort ». Et le sorcier qui est incriminé et peut être considéré par d'autres membres de la société comme un guérisseur. C'est ça qui est intéressant, cette dualité du personnage qui peut être à la fois sorcier et guérisseur. Donc voilà. Donc, maintenant, pour venir sur cette dimension, donc vous avez compris la dimension du rapport au territoire et à la terre, et vous allez comprendre pourquoi j'ai insisté sur ce monde. C'est parce que pour les Yaki, le territoire qui est en train de passer, ils l'appellent Itom Ania, qui est notre univers. Et cet univers, c'est celui que j'appelle l'espace-temps-esprit. Parce que dans cet univers, prend la dimension de la terre-nature, c'est-à-dire qui est un être en soi qui vient agréger tous les êtres vivants. D'accord ? Le Itom Ania implique dans sa dimension ce qu'ils appellent le Huya Ania et le Yohania, ce que j'ai appelé tout à l'heure la nature et la surnature. D'accord ? C'est bon ? Vous me dites, hein, parce que pour moi ça me paraît tellement évident d'aborder ces questions, comme ça fait tellement longtemps que je travaille là-dessus. Et là, encore une fois, nature et surnature, j'en reviens encore au principe mythique. Vous savez que j'aime beaucoup les Grecs, hein, parce que les Grecs, c'est dommage, à partir du 6e siècle avec les présocratiques, ils ont un peu perdu cette relation à la nature et à la surnature. Les Grecs nous rappellent que nature se dit phusis en grec. Et donc si on prend l'étymologie de phusis, nature ça veut dire faire naître, faire croître. Donc la nature, c'est celle qui naît et qui croît par elle-même, qui est née d'elle-même, c'est-à-dire qui se crée et se récrée par elle-même. C'est ça la nature. Et on se rend compte que les Grecs avaient vraiment perçu cette notion de nature, où la nature est créée et recréée par elle-même. Elle n'a pas besoin d'un élément extérieur pour être créée. Et dans la relation au territoire, les Yaki, ils sont dans ce rapport au Uyanir, Hoanir, où dans cette dimension de la nature sur nature, il faut comprendre les éléments qui sont rattachés à notre père le soleil, Itom Achai, qui est très important. Là, nous sommes sur les figures masculines, hein, quelque part, mais sans cette dissociation. C'est-à-dire ces figures masculines viennent se superposer aux figures féminines du Itom Anya, qui est le monde de la surnature, avec Itom Malamecha, qui est notre mère lune, les figures féminines, la saison des pluies, et là on retrouve tout ce qu'on appelle les fleurs de pouvoir donc médicinales, psychoactives, enivrantes, et c'est le monde qui représente un petit peu l'univers des savoirs occultes et de la connaissance. D'accord ? Donc vous voyez, le Huyanir Yohanir est ce monde principe double où nous avons cette complémentarité, ce qu'on pourrait appeler des forces opposées, masculines, féminines, mais dans ce principe double qui fait que l'une sans l'autre ne peut pas exister. Et il ne faut pas oublier chez les Yaki, on dit étoile, mais en fait c'est une planète, il ne faut pas oublier celui qu'on appelle le seigneur de l'aube, le Sewa Wailiu, qui est en fait le seigneur de l'aube, c'est celui dont je vais parler un petit peu en avant, c'est l'homme serre-fleur. Et l'homme serre-fleur est associé à l'étoile Vénus, ou la planète Vénus. C'est plutôt une planète, hein, mais bon. Et vous savez, l'étoile Vénus, c'est l'étoile du berger. Et vous savez pourquoi l'étoile Vénus est associée au seigneur de l'aube dans le principe double, à votre avis ? Là, je pose une question, je vais faire mon prof, je vais poser mes guidettes, et je vous pose une question. Pourquoi les Yaki ont associé l'homme serre-fleur à Vénus, qu'on connaît, nous, ici, comme l'étoile du berger ? Est-ce que vous savez pourquoi ? En pensant au principe double, quelle est la particularité de Vénus ? J'aime bien faire le prof, c'est sympa.
Ouais, tu fais super bien.
Alors, Daniel, quelle est la particularité de Vénus ?
Donne ma langue au chat.
Vénus. Donne ma langue au chat, très bien. Le berger, qu'est-ce qu'il fait, le berger, le matin ? Il sort les moutons, par exemple, et le soir, il rentre les moutons. Eh bien, Vénus... Pardon ?
C'est celle qu'on voit la première.
Voilà. Vénus est l'étoile qu'on voit soit la première, soit la dernière. C'est l'étoile qui est la plus proche du soleil, elle reflète la lumière du soleil. Donc Vénus a une position, les spécialistes appellent ça la position matutinale et vespérale, et c'est pour ça que les Yaki, dans cette perception de l'univers, ils ont associé l'homme serre-fleur, le seigneur de l'eau, parce que c'est celui qui, dans ce principe double, pour pouvoir être un homme serre-fleur, quand je dis homme serre-fleur, ça veut dire femme, serre-fleur aussi quelque part, hein. C'est cette dimension du principe double, parce qu'il ne peut pas être cette représentation, il ne peut pas être ce monde s'il n'est pas dans cette capacité d'être aussi bien à l'est qu'à l'ouest, dans ce cercle de la vie. Vous savez, les Indiens ont une pensée plutôt circulaire et cyclique, mais pas un cycle qui revient au début, hein. Vous savez, c'est la spirale. La perception du temps et la perception de l'univers par les Indiens, souvent, on a cette perception, le cycle revient au début. Non, non, Brandard nous explique bien que quand elle va revenir au début, ça se décale et ça vous fait la spirale. C'est le labyrinthe, hein. On connaît aussi le labyrinthe chez les Grecs, hein, les Minotaures, tout ça. Mais le labyrinthe, c'est aussi le chemin de vie. Nous sommes dans un chemin de vie d'un cycle qui ne vient pas se répercuter sur le début du cycle, mais qui vient dessiner sa spirale, la spirale de la vie. Et voilà, donc c'est un petit peu cette dimension qu'ont les Indiens Yaqui dans cette perception. Le Père Soleil, la Mère Lune et Vénus, cette étoile, qui vient déterminer l'espace, le temps et l'esprit. D'accord ? Donc, là je vais vous confronter à quelque chose. On va voir, si je vous demandais de me dessiner votre représentation de votre univers. Je refais le prof, tu le permets, Jean?
Oui, vas-y.
Si je vous demandais, tout d'un coup, j'aurais dû amener... Je le fais souvent avec mes étudiants, je leur demande de me représenter leur perception de leur univers. Comment ils se situent dans l'espace, le temps, et l'espace-temps plutôt, de leur univers. Pour vous, si vous deviez représenter votre territoire.
Ça serait un territoire où il y aurait des arbres.
Par exemple, très bien. Est-ce que ce sera...
Des sphères.
Des sphères pour vous, ouais. Très bien. Oh, super, bon voilà. Je savais qu'on allait avoir des résonances.
Le soleil et la terre.
Ah, pardon ?
Le soleil et puis la terre et puis l'arbre au milieu, effectivement.
Très bien. Donc voilà, je vais vous présenter l'univers tel qu'il est perçu par les Yaqui. Voilà, pour les Yaqui, l'univers se représente de cette façon. Je vais le faire passer.
Waouh. C'est leur territoire qui est symbolisé
ouais,
par le
territoire, ici vous avez le Tosa qui est la terre, c'est leur territoire. Mais après je vais vous passer, ça c'est un dessin d'un danseur, un membre de la communauté Yaqui. J'ai une amie qui est anthropologue et qui est au Mexique, qui a travaillé chez les Yaqui aussi, et qui a demandé aux Yaqui de lui faire une représentation plus graphique que celle-ci. Celle-ci, c'est, je l'ai faite dans des circonstances très particulières, parce que ça faisait 4 nuits que je dormais pas, parce que je participais à des fêtes, à des rituels, on pourra en parler après. Et je me suis retrouvé dans une situation, vous savez, souvent les anthropologues, on aime bien prendre notre temps, se poser pour avoir un informateur et prendre des notes et l'écouter tranquillement. Mais avec les Yaqui, ça ne se passe pas comme ça, c'est très compliqué, vous ne prenez pas de notes en direct. Si vous voulez vraiment avoir des informations, vous ne prenez pas de notes en direct, c'est que de la récapitulation. Ça, je pourrais vous expliquer ma méthode pour réussir à retranscrire ce que j'observais un ou deux jours après. C'est très compliqué. Et donc, cette représentation du monde, c'est un Yaqui. Il était 6h du matin. Il est venu vers moi. Et c'est le moment où on maudit d'être fatigué, on maudit de ne pas avoir dormi pendant 3 nuits parce que, bon, voilà, vous participez au rituel. Et il a commencé à me dessiner sa vision, sa cosmovision. Et c'était la première fois qu'un Yaqui prenait le temps de m'expliquer sa vision du monde. Et donc il m'a dessiné ces cercles. Et donc j'ai essayé de reproduire ces cercles. Donc vous voyez ces cercles, ici vous avez des axes. En fait le territoire Yaqui, et vous le retrouvez celle que je vous ai fait passer avec la Sierra, elle doit se balader par là. Ah oui, vous l'avez rangé, c'est gentil. Bon voilà, donc ceci, c'est ceci. Ça c'est le territoire sacré des Yaqui. Et en fait, les Yaqui, ils déterminent leur rapport au monde par rapport aux axes du monde. Il y a la position du soleil sur les solstices. D'accord ? Vous me suivez ? Ça, c'est l'univers des Yaqui. Et au centre, vous avez le nombril du monde. Chez les Grecs, on appelle ça omphalos, le centre. Vous savez, nous avons eu une propension à croire que nous étions au centre de l'univers. Il a fallu que Galilée, Copernic arrivent pour qu'on puisse se dire à un moment, non. La Terre n'est pas au centre du monde. Et nous croyons encore que nous sommes au centre du monde. Les Yaqui, les Amérindiens, ont une vision du monde où le centre, c'est le lieu de la neutralité. Ils ne se considèrent pas au centre du monde. Ils considèrent qu'il faut trouver le centre pour être en harmonie avec l'univers et pour ressentir les influences de l'univers. Si vous voulez recevoir l'influence du Nord et de l'Ouest comme le Seigneur de l'Aube, il faut trouver votre centre. Et ce centre, en Yaqui, on appelle Siku. Vous savez par exemple que Mexico, ça veut dire le nombril de la lune. Cusco, ça veut dire nombril. L'île de Pâques, le nom de l'île de Pâques, ça veut dire nombril. Je crois que le mont Sinaï, ça veut dire nombril. La plupart des lieux sacrés, des lieux où, l'acte de naissance ou l'acte de création, d'existence, est rapporté à un centre, et ce centre est souvent représenté par une montagne, et ici la montagne sacrée des Yaquis, c'est la Sierra del Bacatete. D'accord ? Cette Sierra est ce centre qu'il faut trouver et défendre. Il faut se placer au centre pour recevoir l'influence des axes et des points solsticiaux. Alors, je parlais de l'homme serfleur. À votre avis, vous connaissez un petit peu les points solsticiaux, comment ils se positionnent ? Vous savez, par exemple, dans notre architecture des édifices religieux au Moyen-Âge, on utilisait ce qu'on appelle le quadrilatère. Je vais retrouver ça. Je ne voulais pas vous le montrer tout de suite, mais bon, après, comme je n'aurai pas le temps de tout... Où je l'ai caché ? Il doit être par là. Ça y est, il est là. Hop, voilà. Ça, c'est le quadrilatère solstitial. C'est-à-dire que pour les édifices religieux et civils, on trouvait le nord, et quand on avait situé le nord, on dessinait un cercle, et ensuite, bien sûr, le point du soleil au solstice d'été et d'hiver n'est pas le même selon la latitude. Hein. Ça, c'est important aussi à savoir. Et donc, il dessinait le cercle pour ensuite dessiner le quadrilatère solstitial, par exemple, pour construire les églises. C'est pour ça qu'avant, les églises étaient orientées au nord. D'accord ? Donc voilà. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas très éloignés aussi de notre rapport à une certaine époque, de cette relation avec l'univers. Donc voilà. Et donc, pourquoi l'importance d'être en relation avec ce centre ? C'est parce qu'en fait, le mouvement du soleil, et là vous allez comprendre pourquoi j'en arrive à parler de l'homme serfleur, le mouvement du soleil, je vais faire passer, moi j'en ai plus besoin, tenez. Le mouvement des soleils, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mouvement du soleil, il va dessiner une fleur. D'accord ? Sur les points solsticiaux, à partir de son apparition à l'est. Ici, on part de l'est, d'accord ? Vous verrez, il y a les numéros pour comprendre. Donc ici, on part de l'est, on descend au nord, et on finit à l'ouest, voilà, nord, sud et ouest. Donc voilà. Donc, la vision du monde des Amérindiens a fait que par rapport à leur rapport au centre et la relation à l'espace, ils ont vu que la rythmicité, ce qu'on appelle aussi la chronobiologie de l'univers, dessiner une fleur. Et pour atteindre l'équilibre, il faut être dans cette relation au monde et être dans ce rythme. D'accord ? Hop. Très bien, j'avance. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé, hein. Donc... Il y a la dimension, quand je parle du nombril, il faut aussi prendre en compte la dimension du supraterrestre et de l'infraterrestre, parce que le mouvement du soleil, le soleil disparaît. Pour les Indiens, quand le soleil disparaît, chez les Aztèques par exemple, il était accompagné par le jaguar pour pouvoir l'aider dans sa lutte et vaincre les forces obscures pour pouvoir renaître et être accompagné par l'aigle. Donc il y a toujours ce combat. D'ailleurs, les Aztèques, les sacrifices humains qui étaient souvent faits par les Aztèques, c'était pour nourrir le soleil et que ce soleil dans sa course ne soit pas retenu dans les ténèbres par les êtres obscurs qui voulaient le retenir et empêcher le soleil de renaître. Donc voilà. Donc voilà. Donc il faut vraiment comprendre cette dimension où les Yaquis, la dimension ne se situe pas simplement sur le terrestre, mais elle se situe aussi sur le supraterrestre et l'infraterrestre, en passant par le nombril du monde. En sachant aussi qui ne se dissocie pas de ce que j'appelle les corporalités hein, de la nature. Donc là, on parle des corporalités animales, végétales et minérales, d'accord ? Donc la pluie, le vent, le tonnerre, les arbres, voilà, la roche, et les corporalités stellaires, d'accord ? Qui sont aussi animées. On parlait toujours tout à l'heure de l'âme que vous aimez retrouver ici. Donc on retrouve cette âme. Les corporalités de la nature sur nature sont animées. Eux, ce qu'ils appellent, ils appellent ça le Hyapsi. Hyapsi qu'on peut traduire par cœur, âme, souffle. Moi j'aime bien souffle, esprit. Vous comprendrez pourquoi. Et donc vous comprenez que la dimension qu'ils essayent de faire ressortir dans leur relation au monde, c'est ce qu'on appelle aussi cette dimension de la géométrisation de l'espace, hein, et la cartographie. Ils sont dans une démonstration de leur rapport au monde. Parce que souvent, les Amérindiens ne sont que dans la reproduction de la dimension spatiale et stellaire qu'ils viennent reproduire sur la Terre. Ils ne viennent que reproduire, par exemple, les Aztèques, dans la construction des édifices, ce n'est que reproduire l'édifice cosmique et stellaire des étoiles sur la Terre. Et la position des édifices, des maisons, des pyramides, n'est que la position occupée par les étoiles dans le ciel. Donc voilà, ce lien de géométrisation qui est très important pour comprendre cette dimension de relation à l'espace, le temps et l'esprit.
Quel rapport avec le souffle que j'ai décroché là?
Alors, le rapport avec le souffle, c'est, je disais que Khyapsi peut être aussi traduit par âme, esprit ou souffle. Et vous comprendrez après pourquoi, mais je vais en arriver parce que le souffle, c'est la notion de vibration que je vais retrouver dans la rythmicité, mais je vous le dirai ensuite un petit peu pour conclure. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension. Alors, chez les Yaquis, il est vraiment très important de préserver ce territoire parce que ce qu'il faut comprendre, comme je vous l'ai expliqué, la Sierra du Bacatete, c'est les corps métamorphosés des ancêtres, d'accord, de ceux qui ont résisté et qui ont décidé de partir et qui se sont transformés en montagne, en rivière, en fourmis et en étoiles pour certains. Donc voilà, donc il y a vraiment cette dimension de ce rapport au territoire qui fait que l'espace, donc, comme je l'ai dit, c'est le tosa, la terre, c'est donc qui est aussi en relation avec les animaux. Alors, à chaque fois, c'est très compliqué parce que quand je dis un terme, ça implique d'autres termes. Parce que biatosa, c'est le nom du rat. Et le rat, c'est celui qui a transmis la culture, c'est-à-dire la culture, la connaissance de la flûte et du tambour. La flûte et le tambour sont les instruments qui sont utilisés pendant la danse du cerf. Donc vous vous rendez compte, à chaque fois que je vous dis un terme, je devrais faire une digression de 4 heures pour vous expliquer pourquoi c'est super important que je vous dise biatosa. Et je vous dis biatosa, ça veut dire ni terre, mais c'est aussi le nom du rat qui a apporté des objets culturels, la nature et culture. Vous savez qu'aujourd'hui, Descola, Pignotti sont des personnes qui travaillent sur ces questions et qui sont en train d'expliquer que la césure entre que nous faisons entre nature et culture n'est pas du tout opérante et complètement inopérante et que nous devons, dans la transition écologique, là je prêche un peu pour ma paroisse, revenir à ce rapport à la nature-culture et ne pas dissocier la culture de la nature. Michel Bocora, par exemple, lui va encore plus loin parce qu'il considère que le langage articulé de l'homme, c'est grâce aux oiseaux. C'est les oiseaux qui nous ont pris à parler. Par exemple, c'est pour d'autres, les paléontologues ont commencé à travailler sur les primates et on se rend compte que on pourrait dire que l'arbre nous a appris à marcher. C'est l'arbre qui nous a appris à marcher. Parce que les primates, il y a l'image de primates qui se lèvent dans la savane, mais en fait non. Vous regardez vos mains et c'est Baptiste Morisot appelle ça la brachiomanie. C'est-à-dire, voilà. Donc dans l'arbre, le singe, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche à la branche et il marche. Donc l'arbre nous a appris à marcher. L'arbre nous a peut-être transmis le feu aussi. Donc voilà, il y a toute cette dimension où nature-culture, penser que la nature ne vient pas nous nourrir, c'est un petit peu l'erreur que l'on fait encore. Il faut qu'on sorte de ce paradigme. Hein. On parle d'inventer un nouveau paradigme. Je dis non, il ne faut pas inventer un nouveau paradigme. Il faut revenir à cette notion de nature. Donc nature biatosa. Donc ensuite, vous avez le teka, le tosal, le bawe, le kawi et le huya, donc la cile. Le temps, c'est la réalité vécue du mythe, donc c'est des surèmes, c'est notre père le soleil, c'est notre mère la lune, c'est le seigneur de l'ombre, donc l'homme cerf-fleur, l'étoile matutinale et vespérale, d'accord, donc qui introduit cette notion de rythmicité et chronologie, et l'esprit, c'est comme je vous disais, l'esprit c'est celui du principe double, parce que dans ce principe double, vous avez d'autres mondes. Et là, c'est très important pour les Yaquis. Il y a une importance fondamentale de savoir que le Huya Yoanir renferme le monde du Sewa Anir, qui est le monde de l'altération et des fleurs. Sewa, ça veut dire fleur. Vous avez le Sewa Wailo, qui apparaît aussi dans le monde des esprits. Vous avez le Tenku Anir, qui est le monde des rêves, donc, qui est aussi très important. Vous avez le Yohara, qui est le monde des pouvoirs des animaux ou l'essence de la terre. Vous avez le Tuka Aniya, qui est le monde de la nuit et des ombres. Vous avez le Chonis, qui est le monde des esprits qui sont bienveillants ou malveillants. Et vous avez le Kuta Nokame, pour terminer, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent dans son prince indip, qui est l'arme au prophète. Par exemple, je ne vous l'ai pas dit, mais il faut comprendre que la géométrisation de l'espace, vous savez tous que nous sommes issus de cultures qui avaient une relation à l'arbre très importante. L'arbre, dans nos cultures, Yggdrasil, l'arbre des Gaulois, les druides, d'accord, c'est l'axe, ce qu'on appelle l'axis mundi. Et le monde est supporté, les quatre axes que l'on voit sur le document que je vous ai passé, se sont aussi représentés par des arbres. D'accord. Il y a donc cette relation aussi au monde que l'arbre, dans la pensée métique, est, je vous ai dit, il nous a appris à marcher, mais c'est aussi celui qui nous donne notre existence. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu la mythologie sur Yggdrasil, sur les chips. Non.
Yggdrasil, c'est-à-dire
Non, je vous connais. Vous ne connaissez pas l'arbre Yggdrasil, c'est Odin, hein, c'est le destrier farouche. Et Yggdrasil, c'est un arbre qui est relié avec le supra, le terra et l'infra. D'accord.
Mais dans la mythologie
viking. Et nous, chez les Celtes, chez les Druides, on retrouve différents arbres, ce qu'on appelle. Les Druides se réunissaient dans une forêt magique qui était composée de sept arbres. Et je sais qu'il y a le chêne, l'érable. Donc vous comprenez ce rapport. Parce que l'arbre, c'est celui qui fait le lien entre le supra, l'infra et le terra. Et le tronc de l'arbre, chez les Yakis, c'est aussi l'axe, le centre, par lequel circulent les essences. Et les esprits, quelque part. L'essence de vie circule par l'arbre, qui est la double hélice de l'ADN. Bon, ça, c'est Jérémie.
C'est qu'il est prophète. Tu parlais de l'arbre prophète.
Ouais, l'arbre prophète de Kuta no Kame, c'est l'arbre qui est au centre du monde, et c'est lui qui vient de dire aux Yakis qu'ils vont être colonisés. C'est-à-dire, les Yakis savaient déjà, avant l'arrivée des Espagnols, que la situation qu'ils allaient vivre aujourd'hui, et ça, c'est le mythe, hein, c'est pas la démarche historique, c'est qu'ils savaient déjà que la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui avait été annoncée par les Surem. Et les Surem, eux, ils ont décidé de partir, et les Yakis ont décidé de rester. Parce qu'ils ont voulu affronter la réalité historique pour défendre le mythe. Donc, c'est vraiment cette démarche. Donc voilà. Et en fait, dans l'esprit, ici, pour entrer sur le corps fleur et comprendre l'équilibre, la recherche d'harmonie, il faut savoir que chez les Yakis, il y a des confréries. Putain, mais ça va être trop long, je peux pas tout vous donner. En fait, il y a des obligations, si vous voulez. La cohésion sociale du groupe, je vous ai dit que c'est une société qui est très violente, très déstructurée, qui a beaucoup de problématiques, mais les trois corps de pouvoir essaient de maintenir la cohésion sociale. Et pour maintenir ces cohésions sociales, ils ont des obligations, soit civiles, soit religieuses, soit militaires. Et il y a aussi des obligations, ce qu'on appelle la costumbre, qui est la coutume. Costumbre, qui est une déformation du mot espagnol costumbre. Et donc, il y a des obligations, ils doivent appartenir à des confréries. Et ces confréries, il y a des confréries de musiciens, de danseurs, donc avec le danseur sœur et le danseur Pasco, là, qui portent des masques, qui sont l'élément qui vient apporter l'harmonie à la danse du cerf. Et vous avez donc la confrérie ensuite des prêtresses et des prêtres. Donc voilà. Et donc, dans ces obligations rituelles, chacun doit œuvrer à l'équilibre de la société. Ceux qui ne participent pas à la côte, mais c'est eux qui apportent le déséquilibre. Et la danse du cerf, c'est la danse vraiment. Vous allez sur internet, vous tapez danse du cerf Yaki, vous allez voir, il y a énormément de vidéos. La plupart ne reflètent pas la réalité de la danse, parce que les Indiens sont très malins. Souvent, quand ils sont filmés, ils ne dansent pas la danse de la façon dont ils la dansent dans les rituels privés. C'est auquel j'ai assisté. Et ils le font à chaque fois. Beaucoup de documents du début du XXe siècle sur la danse du serpent, par exemple. Je sais plus si c'est Curtis qui l'avait filmé, mais je ne suis pas sûr. Les Indiens l'ont dansé à l'envers. Parce qu'après, il y a des anthropologues qui sont allés l'observer sans caméra, sans rien. Ils se sont rendus compte que ce qu'avait filmé Curtis... Je ne suis pas sûr que ça soit Curtis, il faudrait couper. Hein, mais il l'avait dansé à l'envers parce qu'il ne voulait pas, parce que ce sont des danses magiques, hein, vous comprenez bien. On ne fait pas, on n'enregistre pas la magie, on ne filme pas la magie, parce que vous enlevez le pouvoir. Enregistrer, c'est figé. Il faut que la parole soit libre, il faut qu'elle circule. Aujourd'hui, la parole, il ne faut pas l'emprisonner. On archive, on n'arrête pas. Je fais encore une parenthèse, je peux faire très attention avec moi parce que je fais beaucoup de parenthèses. Donc voilà, donc cette dimension de la danse, cette dimension de l'équilibre, chez les Yaki, la danse du cerf, c'est vraiment une danse qui est... le vecteur représentatif de la culture Yaki. Et la danse Yaki, la danse du cerf, elle est interprétée dans des circonstances particulières sous une tonnelle. Cette tonnelle est faite avec des poteaux et un branchage en roseau. Le roseau, très important, parce que la Sierra du Bacatebe, ça veut dire roseau long, crélon, qui est l'origine des Yaki, avec la notion de bas qui est l'eau. Donc, utiliser des roseaux dans la ramada, c'est revenir à la source, à l'origine. Et la danse, il y a quatre pascolas. Les quatre pascolas, vous l'avez compris, c'est les quatre porteurs du monde, hein. C'est la géométrisation. Et le cerf, c'est le danseur cerf, c'est celui qui, quelque part, danse au centre et danse dans l'harmonie pour dessiner la fleur autour des quatre pascolas. Donc voilà. Donc ici, en fait, ceci, c'est la danse du cerf géométrisée Et sur les quatre axes, vous avez les danseurs Pascola. Je conçois ça soit super compliqué pour vous de visualiser parce que vous ne voyez pas à quoi ça ressemble. Donc c'est super difficile hein, de ne pas voir les danseurs. Donc les danseurs Pascola dansent torse nu avec un masque sur le visage ou sur le côté et représentent des danses en lien avec la nature. Tout est en lien avec la nature. La Ramada, les poteaux de la Ramada, ils portent des noms qui sont en lien avec la nature, avec l'oiseau, le serpent. Donc voilà, tout est en lien avec la nature. Et la musique interprétée, alors ce qui est très intéressant, c'est que la musique interprétée sur cette danse est une musique préhispanique, donc avec des grattoirs et un tambour d'eau. Donc c'est vraiment les instruments. Et les chants viennent révéler l'origine, parce que le chant souvent dit, quand le cerf danse, tous, je vais reprendre mon côté professoral, si je retrouve la citation, voilà. Je vais vous le dire en yaki avec mon accent. Nespo yaneapo kwa texlime. Moi dans le ciel et tous avec moi. C'est ce qui symbolise vraiment le lieu du corps qui se transforme en fleur. L'équilibre et l'harmonie du corps individuel, ça je ne l'ai pas précisé, mais il y a l'importance du corps individuel yaki, du corps collectif, c'est vraiment de créer cette harmonie par la danse du cerf et de fédérer tout le peuple autour de cette géométrisation de l'espace. Cette géométrisation, cette connaissance, ce rapport au monde. Ce qui m'amène à aborder, après vous me dites si vous ne voulez pas qu'on parle de ça, parce qu'en Occident, parfois, parler de la mort, ça pose problème, mais c'est aussi chez les Yakis...
Personnellement, ça me paraît vie. La mort, c'est la vie, ça peut
oui, oui, voilà, bah, très bien, donc moi, je suis d'accord avec vous. Donc la dimension de ce rapport au temps et à cette rythmicité et à la chronobiologie, c'est aussi le rapport que les Yakis ont avec le monde de la mort. C'est marrant, vous m'avez pas posé la question. Pourtant, j'ai fait passer la. Mais ça aussi, ça fait partie du jeu. Vous avez vu, j'ai marqué Takalaim, montagne sacrée. Et vous avez vu, j'ai marqué il y a deux points. Elle est aussi en dualité. En fait, chez les Yakis, ce rapport au monde et cette géométrisation de l'espace, c'est le rapport à la mort. C'est-à-dire, vous avez compris, dans ce cercle, dans ce rythme, ce cercle de vie, la nature se crée et se recrée. Donc les Yakis se créent et se recréent. Et ces deux points qui portent le même nom préfigurent deux destinées différentes selon la façon dont vous mourrez et selon la façon dont vous vous comportez dans l'équilibre de la société et dans l'harmonie de la société. C'est-à-dire que le Takalai de l'Est, donc l'Est qui est la naissance du Soleil, qui est l'opposition avec l'étoile Vénus, les membres des confréries qui respectent et qui œuvrent à leur obligation, le moment de leur mort, ils vont rejoindre ce point. Ils vont rejoindre, c'est une sorte de paradis. D'accord ? Ceux qui... Et ceux qui, dans les confréries, à un moment donné, ont une attitude qui est contraire aux obligations, ils rejoignent le Takalai de l'Ouest. D'accord, qui est un monde un peu obscur où l'esprit, le souffle se transforme en homme mi-poisson, se transforme en serpent à sept têtes. Donc voilà, c'est toute la mythologie des Yakis. Donc il y a le corps qui se métamorphose encore dans ce monde de l'ombre. Et vous allez me dire, mais pour les membres de la société normale, bah pour les membres de la société normale qui respectent ce qu'on appelle la parole ancestrale, la Lutulia Yowei, ceux qui respectent cette parole, eux, bah pareil, ils vont rejoindre un monde qui est le Teka, le ciel. Voilà, ils rejoignent le ciel. Et ceux qui ne respectent pas, ils rejoignent, c'est leur. Vous comprenez aussi que c'est pas le corps qui rejoint, c'est le Hyapsi, c'est le souffle, c'est l'esprit qui rejoint ces différents domaines. Et ça, c'est toute l'association avec le monde de la géométrisation, c'est-à-dire il faut maintenir cet équilibre du rapport aux axes, du rapport au centre, du rapport au mouvement de la Terre, à la rythmicité de la Terre, à sa chronobiologie. Ok, hop, j'ai presque fini, voilà, tac. Je vais pas tout lire.
Comment célèbre-t-il la mort ?
Alors la mort, j'ai assisté à des cérémonies. Alors, ça va être trop long hein, si je vous explique, parce qu'il y a l'enterrement, il y a la préparation du corps. 9 jours après, il y a ce qu'on appelle el novena avec des chants. Donc de minuit à 6 heures du matin, il y a le cœur des femmes qui vient dans la maison de la famille chanter et accompagner l'âme. Et en fait, les personnes sont enterrées dans des tombes recouvertes. Bon, maintenant, c'est toujours pareil, hein, la globalisation fait qu'il y a des tombes en dur, mais sinon, ils sont enterrés. Avant, ils étaient enterrés dans des grottes avec un linceul. Aujourd'hui, les autorités mexicaines ne laissent plus. Pour des conditions. Les corps, voilà, c'est un peu contaminé, donc ils interdisent. Donc, ils les enterrent, ils ont des cimetières où ils sont enterrés dans une première tombe pendant un an, ils sont dans des terres avec la terre. Et les femmes viennent toutes les semaines, les femmes de la famille viennent ce qu'ils appellent pétrir la tombe, amasar, ils disent en espagnol, amasar, la tombe, pour redonner la forme du dôme sur la tombe. Voilà. Vous savez qu'il y a la fête des morts au Mexique, donc au bout d'un an, il y a le livre des morts, ils ont un livre des morts où il y a une cérémonie où les noms des morts sont prononcés. Et chez les Yaquis, il y a quelque chose qui peut paraître très particulier. Il y a un poème qui dit, je ne l'ai plus en tête, mais je vais vous dire la dernière strophe, et j'espère qu'on, s'adressant aux morts, et j'espère qu'on va t'oublier très vite. Il faut oublier les morts, c'est toujours pareil, il ne faut pas retenir les morts, il faut les oublier pour qu'ils puissent parcourir le chemin et redevenir un esprit. Parce que chez les Indiens, vous savez qu'il y a ce cycle, l'esprit revient. Il peut revenir sous une autre forme, mais il revient. Donc, il y a vraiment chez les Yaquis cette dimension de ne pas retenir les morts. Il y a les cérémonies, et au bout d'un an, et souvent les problématiques, les sorciers et sorciers guérisseurs interviennent dans les familles pour des problématiques de maladie. Et j'en ai été témoin dans la famille avec laquelle j'habitais. La guérisseuse a dit à la personne, tu dois laisser partir ton fils qui est mort. Tu es en train de créer du désordre et du déséquilibre parce que ton fils veut emmener son fils, il veut l'emporter avec lui, et donc tu dois laisser partir ton fils. Tu ne peux pas le retenir, sinon tu vas provoquer la mort de ton petit-fils. Bon voilà, ça c'est un rapport qui est très différent du nôtre sur la relation vivant et aux morts, et l'impact des morts sur les vivants. Donc voilà, ils ont vraiment cette dimension où il faut que l'esprit du mort puisse faire son voyage et revenir dans une autre dimension, dans un autre aspect.
Et l'esprit du mort, tu parlais de deux zones ou trois zones.
Ouais.
Et après, au départ, tu parlais de, il va s'incarner dans un arbre ou dans
j'aime
une pierre.
J'aime pas parler de réincarnation parce que pour te donner un exemple, en fait, Michel Bocora, j'adore. C'est un anthropologue, c'est un scientifique. Il est à Paris, je crois qu'il est en, je sais pas s'il a pris sa retraite, mais c'est quelqu'un qui est un spécialiste des Mayas. Hein, c'est vraiment une sommité. Hein. Il est un peu à l'écart, à la marge de l'institutionnalisation ou du discours institutionnel en anthropologie. Mais Michel Bocara, ce que j'adore, c'est qu'il a travaillé sur les Mayas. Et les Mayas, ils ont un concept. Et maintenant, je l'utilise aussi. C'est le concept « ouais ». En fait, nous ne sommes pas des êtres vivants. C'est pour ça qu'on parle d'être vivant, d'être non vivant, le monde vivant et le monde du non vivant. Chez les Indiens, il n'est pas opérationnel parce que l'être, en fait, l'homme n'est pas un homme, c'est un devenir. L'homme ou la femme hein, n'est pas un homme, est un devenir. Et en fait, le devenir dans la dimension « ouais », W-A-Y, dans cette dimension, c'est que l'homme partage une part animale, une part végétale, une part minérale et une part astrale. Et dans son devenir, l'homme doit passer par sa part animale, par sa part végétale, par sa part minérale et par sa part astrale au moment de sa mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on vieillit, au début, on est dans sa part animale, jeune, plein de puissance. Moi, je me rends compte que je suis en train de rentrer dans ma part un peu végétale, d'arbre. Je me pose un petit peu, les racines, je fais mes cours, j'échange. Et je me rends compte que mon corps, il durcit aussi. Je rentre dans ma part minérale. Quand je fais une chute à vélo, je ne récupère pas en une semaine. Je mets 2-3 mois à récupérer. Et normalement, à la fin de ma vie, j'espère atteindre cette part astrale. Et je trouve ça vraiment, et ça, c'est de la poésie, hein. Considérer l'être dans son rapport au monde comme un devenir et pas comme un être humain. Donc, on peut dire, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis un devenir. C'est vraiment, voilà. Donc, la dimension des Indiens, c'est vraiment cette dimension d'être dans le devenir. Et ce devenir, il peut être difficile. On peut traverser aussi des épreuves dans le monde des morts, dans l'infraterrestre. Mais ce qui est intéressant chez les Indiens, c'est que cet infraterrestre ne dure pas. Il n'y a pas d'éternité chez les Amérindiens. Il n'y a pas ce concept d'éternité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans l'inframonde où vous subissez des épreuves terribles, même chez les Indiens, au bout de 4 ans, votre esprit a le droit de redevenir un devenir. Et ce devenir, je ne sais pas, peut-être qu'il commencera par sa part astral, vous savez, moi j'adore citer Carl Sagan et qui a été repris par Albert Reeves, nous sommes des poussières d'étoiles. L'origine de la vie, la Voie lactée, l'impact de l'étoile sur la Terre, poussière d'étoile dans notre corps, les compositions chimiques de notre corps, il y a du carbone, il y a, bon, je ne l'ai pas imprimé, mais bon, il y a toute une série d'éléments qui font que nous sommes, et notre corps, comme le dit Carl Sagan, le squelette est composé d'éléments stellaire. Donc, et je trouve ça vraiment génial de se dire, ben voilà, nous devons revenir à cette dimension du rapport au monde et ce lien aux étoiles. Donc l'esprit, mon esprit quelque part, ben j'espère que son devenir sera autre ou je sais pas. Voilà.
Je suis désolé de voir ces petites.
Ouais, ouais, pas de problème, Samuel. Hein,
j'essaie de faire plein d'écrire l'enregistrement, mais ouais. C'est pas très dans la philosophie du coup.
On en avait parlé avant, on s'était mis d'accord avant. Je
sur oui, non. L'enregistrement est accessible.
Sur le site.
Ok, parfait.
Donc, je sais pas si vous voyez le site.
C'est appelé
Le
Café.
L-E-T-K-A-W-Café. Et puis, dans les rencontres.
Vous appuyez sur Entrée.
Voilà. Dans les rencontres, il y a des audios, des podcasts.
Ok, parfait. Parfait. Bonne soirée. Merci.
Merci. Alors, allez, je termine, et je termine encore par un symbole, je termine par le cosmogramme. Vous savez, je vous ai parlé de la rythmicité et de la chronobiologie, et là, vous verrez qu'en 2017, ils ont reçu le prix Nobel de médecine, ils sont trois, ils ont reçu le prix Nobel de médecine, et ils viennent valider ce que les Indiens, depuis 2000 ans, nous disent. C'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que nous sommes tous soumis au rythme de la Terre. Donc je vous donne la définition de la chronobiologie, la rythmicité au rythme. Vous savez que nous avons des rythmes biologiques. Donc la chronobiologie, c'est l'étude des rythmes biologiques dans l'organisme et plus précisément dans la rythmicité circadienne. Et ça, ça vient ponctuer, j'adore les signes, ça vient ponctuer, ça vient valider ce que... Non, mais vous ne vous rendez pas compte, l'esprit vient de se... Merci. Hein. Et on ne sait pas...
C'est pas répété.
Pardon ?
C'était pas répété.
C'est pas répété, c'est pas préparé. Donc je continue, là je lis la définition parce que c'est quelque chose de technique que je ne maîtrise pas. Hein. Donc la rythmicité circadienne qui est une propriété universelle rapportée chez les organismes unicellulaires, des plantes, des animaux, permettant la vie sur Terre et la synchronisation avec la rotation de notre planète. Vous vous rendez compte que les Indiens, ça fait 2000 ans qu'ils ont compris que la rotation vient, le rythme, c'est les saisons, hein, c'est notre rythme biologique. Enfin, le rythme circadien, c'est le sommeil, la veille, et nous savons qu'il y a des synchronisateurs qui sont la lumière du jour qui permettent de nous synchroniser. Donc voilà. Donc les Indiens avaient symbolisé ce rapport au monde par la danse du... ce mouvement de la fleur. En fait, la rotation de la Terre a une influence sur notre... Nous sommes ici... Comment dire ? Notre rythme est le rythme de la Terre. Et dans les espaces que nous vivons, comment faisons-nous pour retrouver cette rythmicité ? Nos rythmes sont... Si nous sommes dans des déséquilibres, c'est parce que nos rythmes de vie sont complètement déstructurés. Nous le voyons très bien. Notre rapport à Terre, la vibration de la Terre, je ne vous parle pas de la résonance de Schumann. La Terre a une fréquence qui est comprise... Allez, je ne vous donne pas parce que ça va devenir trop technique. Mais on s'est rendu compte... Et comment on s'est rendu compte de la résonance de Schumann ? C'est que quand on a commencé les premiers voyages spatiaux, on s'est rendu compte que les astronautes ou spationautes avaient le mal de l'espace. Parce qu'ils n'étaient plus en lien avec la vibration avec électromagnétique de la Terre. Il y a une fréquence, une vibration de la Terre. Et on le dit aujourd'hui, hein, sur par exemple la thérapie, on nous dit il faut marcher pieds nus. Bon, pas en ville, parce qu'en ville, il n'y a que du béton. Mais dans la nature...
Il y a du verre, surtout.
Il y a du verre. Mais par exemple, et c'est aujourd'hui, des médecins, courir pieds nus, marcher pieds nus sur de la Terre, c'est au niveau système immunitaire...
Et on se fout par terre.
Pardon ? Non, allez-y.
Non, et on se fout par terre.
On se roule par terre.
Oui, j'ai pas compris. Je suis sourd aussi.
On shoot par terre.
Donc voilà. Et donc, cette chronobiologie, cette notion de rythmicité, donc il y a trois chercheurs, il y en a un qui s'appelle Michael Dune, les autres, je ne me souviens plus, ont vraiment démontré le principe de la rythmicité et l'influence de la rythmicité sur notre rythme biologique. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes soumis au rythme de la Terre. Les Indiens, ça fait 2000 ans qu'ils essayent de maintenir cet équilibre et cette relation à la Terre dans sa vibration. La résonance de Schumann, ça nous amène aussi sur la cymatique. La cymatique, hein, que je ne dise pas de bêtises. Ça, c'est Chadni qui avait découvert. C'est, si je retrouve la définition, c'est ici. Donc, qui est la quand on parlait tout à l'heure de souffle, bah, la cymatique, c'est... allez-y, ouais. Prenez les deux, et après je vous dis pourquoi. Donc, je suis où ? Hop, que je dise pas de bêtises. Voilà, la cymatique qui est l'étude de l'effet du son sur la matière.
Du son ?
Sur la matière. Je sais pas si là, sur Internet, vous voyez, et là, on revient sur les mandalas... indien, les dessins avec le sable. On revient sur les dessins navajo aussi de guérison. Là, on rentre dans la guérison. C'est-à-dire que la vibration sur l'effet de nos corps est aussi importante dans la guérison. Et c'est un élément, comment vous dire, quand on parle de vibration, moi je pense au souffle. Hein, avant, dans la Genèse, c'est le verbe. Hein, avant Dieu, c'est le verbe, c'est le souffle. Donc c'est l'esprit, c'est la parole. Vous comprenez ce que je veux dire ? Là je synthétise un petit peu parce que j'arrive à la fin et je voudrais vous laisser la parole, et on s'est rendu compte sur ce phénomène de résonance et de cymatique, de vibration sur l'effet du son sur la matière. On s'est rendu compte, par exemple, là encore c'est Michael Young qui a travaillé sur je vais prendre mes lunettes, qui a travaillé sur l'ADN, et on s'est rendu compte qu'il y a un gène qui s'appelle le gène père pour périodique, qui est produit par les rythmes circadiens, donc notre rythmicité. Donc les protéines viennent réguler le codage de l'ADN. Donc voilà, bon là je vais laisser je te laisserai les références si les gens veulent approfondir. Je vais pas rentrer dans ces domaines parce que c'est pas des domaines que je maîtrise, hein, mais pour vous donner une citation, par exemple là sur la fréquence de Schumann, elle est comprise entre 7,83 et 8 Hz. Et cette vibration, c'est la fréquence de la double hélice dans la réplication de l'ADN. La mélatonine et la piloline travaillent sur l'ADN, induisant un signal de 8 Hz pour permettre la réplication de l'ADN. Donc vous comprenez que l'utilisation du son pour soigner, la vibration, fait partie aussi des méthodes thérapeutiques. Voilà. Le rapport, je sais qu'au Japon, ils appellent ça la sylvithérapie. Oui, la sylvithérapie, et je ne sais pas s'ils ont la sécu, mais les ordonnances des médecins font des ordonnances de sylvithérapie, demandent aux gens d'aller dans la nature, marcher pieds nus, et être en contact avec la nature, avec la vibration de la nature. Voilà, en résumé, si je peux faire un résumé, vous voyez, c'est cette dimension de... Alors là, je vous passe, on appelle ça des cosmogrammes. Il y a Bruno Latour aussi qui a beaucoup parlé, parce que le cosmogramme, c'est le symbole qui agrège et qui est l'accrétion de la cosmovision des Indiens. Et ce cosmogramme, c'est un cosmogramme Olmec. Donc j'ai expliqué en dessous, donc vous avez la montagne, l'épi de maïs, l'arbre, l'axe central avec les quatre plantes. Et celui-ci, c'est un cosmogramme aztèque. Alors à votre avis, donc là on est en 1500 avant Jésus-Christ, et là on est en 1300 après Jésus-Christ. 1400 après, oui, 1300, 1400 après Jésus-Christ. Alors pour vous, on pourrait, nous, alors peut-être que je me trompe, que vous n'avez pas, j'ai un biais, je dois avoir un biais. Souvent, on considère que le plus évolué est celui qui vient, l'impression, vous savez, de la notion d'évolution. On part de quelque chose qui est schématique, on arrive de quelque chose qui est beaucoup plus évolué, beaucoup plus figuratif, donc beaucoup plus complexe. Et en fait, non, chez les Indiens, le plus complexe, c'est le premier.
Oui. Peut-être le deuxième, on a l'impression que ça bouge. Il y a quelque chose de...
Le deuxième, il est beaucoup plus figuratif et il est beaucoup plus facile à comprendre que le premier. Parce que dans le deuxième, vous avez les oiseaux, vous avez les personnages, vous avez des plantes, vous avez les différents personnages autour des quatre arbres qui poussent. Au centre, vous avez un personnage. Et en fait, c'est, chez les Indiens, c'est ce qu'on appelle le puissant et l'abstrait. C'est l'abstraction. Vous voyez, hein, je vous ai montré l'univers, je vous ai montré trois cercles avec des axes. C'est beaucoup. Et l'abstrait, c'est ce qui donne le sens, et vouloir figurer, vouloir représenter, vouloir archiver, vouloir expliquer, vouloir noter.
On se trompe.
Quelque part, on se trompe parce qu'il faut ressentir les choses. La vibration, elle passe par le cosmogramme parce qu'il indique les axes et il indique les éléments dans l'abstraction. Le symbole doit nous percuter et pas l'explication. Dès qu'on commence à expliquer à quelqu'un ce qu'il doit faire s'il ne le ressent pas, ça ne peut pas fonctionner.
Oui, c'est sûr.
Donc voilà. Je vais finir sur ces paroles, ou je pourrais finir sur quelqu'un qui est aujourd'hui décrié parce qu'il a été récupéré par...
Castaneda.
Pardon ?
Castaneda ?
Non, pas Castaneda, je vais terminer par Nikola Tesla, qui a écrit « Si vous souhaitez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Chaque être vivant est un engrenage adapté à la roue de l'univers. Mmh. » Voilà, moi je terminerai sur cette citation de Nikola Tesla. On sait qu'aujourd'hui, c'est l'une des figures qui est revendiquée par notre ami Elon Musk, qui va se promener dans les étoiles, mais bon, d'une autre façon. On peut terminer là-dessus, ça, ouais.
Super, merci beaucoup.
Ouais,
merci.
Super bien. Ouais, merci à vous. C'est complexe de d'être
oui,
dans.
Oui, c'était pas simple.
Je sais, ouais. Mais comment vous faire comprendre une pensée double.
J'avais peur qu'il allait nous emmener dans un espace-temps différent.
C'est bien de faire sentir cette complexité, je trouve. C'est bien.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est pour ça que je termine aussi avec cette image pour comprendre que vouloir figurer, représenter, on pense que c'est l'évolution, on arrive avec des dessins beaucoup plus élaborés. Mais en fait, non, parce qu'à force de trop figurer, on perd le sens et la symbolique.
Moi, je suis pas.
C'est une évidence pour l'artiste.